la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On le voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de 48FM pour votre émission littéraire Un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère. Une émission toujours sans zinc, on va d'ailleurs saluer nos amis barman, restaurateurs, hôteliers qui restent dans l'attente d'une hypothétique ouverture. L'ouverture, c'est justement ce que l'on essaye de promouvoir dans cette émission, l'ouverture à l'autre, l'ouverture au voyage, à la culture, l'ouverture au genre littéraire, car les livres n'ont pas de frontières, leurs histoires non plus, les personnages sont multiples et toujours animés. Et si c'est toujours compliqué de voyager en ces temps de pandémie, un livre sur le zinc vous emmène au-delà des océans, des mers, des cultures, des communautés, bref, à travers le monde, dans ce qui est de plus beau. L'humanité. Après l'Afrique le mois dernier, nous partons aujourd'hui en Asie centrale. Alors vous pourriez me parler de contes chinois, de romans russes, de poésie japonaise, que nenni, comme dirait mon ami Valérie. Nous allons nous enfoncer vers ces territoires oubliés de l'ex-Union soviétique, Kirghizistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, des pays souvent pauvres mais riches en styles littéraires, en auteurs et autrices. Et elle a voyagé depuis ses Cévennes pour nous rejoindre dans cette émission. Claire Lys, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, ça fait plaisir de te revoir.
Ah ben ouais, moi aussi, je suis super contente là.
Marlène aussi est de retour. Salut Marlène.
Oui, salut.
Et encore une revenante, notre bretonne préférée. Salut Popo.
Salut tout le monde.
Alors, la Bretagne, t'as eu quel temps ?
Elle est belle, elle est belle.
Est-ce qu'il pleuvait ?
Et non, il faisait super beau.
C'est plus que
magnifique.
C'était.
Hein. Mais c'est beau quand il pleut aussi. Hein.
Notre entremetteuse, pas d'intrigue galante, mais de romans, nouvelles et revues littéraires. Salut Claire.
Oui, bonjour à tous.
Toujours fidèle au poste au sens propre, comme au figuré. Salut Valérie.
Hello. Ça commence bien, tu es taquin.
Voilà, je suis un peu taquin. Alors, donc, on va partir en Asie centrale, ces pays qui sont situés, je le rappelle, entre la Russie et la Chine. Alors, on va commencer cette émission en vous présentant trois livres de l'écrivain Kirghiz Chinghiz Aitmatov. Alors, je pourrais dire du majestueux écrivain Chinghiz Aitmatov, si je le dis bien. Alors, je vais commencer un peu par vous raconter sa vie et vous expliquer quel livre on va présenter. Donc, c'est un écrivain soviétique, Kirghiz, né à Tcheker en Union soviétique et mort à Nuremberg en Allemagne. Tcheker, c'est un village du nord-ouest du Kirghizistan, donc à la frontière avec le Kazakhstan, pour ceux que ça intéresse et ceux qui connaissent la géographie du coin. C'est le petit-fils d'un berger nomade, d'un haut fonctionnaire qui a été exécuté pendant les Grandes Purges en 1938, alors que l'auteur n'a que 10 ans, ce qui aura des incidences par la suite dans les romans qu'il va écrire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaille dans les champs, en tant que secrétaire également du soviet local. À 14 ans, il a la charge d'apporter les lettres annonçant les morts au combat aux familles de son village. Un métier comme un autre à 14 ans, hein, Popo.
Oui, oui, ça fait rêver.
Ouais. Alors, après des études à l'Institut agricole dans ce qui est aujourd'hui la capitale du Kirghizistan, il travaille comme agronome, puis comme journaliste. Il se consacre à la traduction d'écrivains russes en langue kirghiz. Il rentre en 1956 à l'Institut Gorki de Moscou. Des traductions russes de ses nouvelles commencent alors à apparaître dans des revues scientifiques. Alors, il est auteur de nouvelles, on va en parler, qui décrivent la vie simple et difficile dans la jeune République socialiste kirghiz. Alors, il écrit dans cette langue d'abord, notamment Djamila en 1958 que Marlène va nous présenter, et Le Premier Maître que Popo va nous présenter ensuite, deux livres qui seront adaptés au cinéma dès les années 60. En 63, d'ailleurs, il reçoit le prix Lénine pour son recueil Nouvelles des montagnes et des steppes, que personne ne va vous présenter. Avant de commencer, on peut pas tout vous présenter non plus. Avant de commencer à écrire en russe, avec Il fut un navire blanc, 1970, que moi, je vais vous présenter. J'espère que vous suivez jusque-là. On va y arriver. Donc, dans les années 80, il est l'un des écrivains les plus connus du nom soviétique. En 85, il devient conseiller de Mikhail Gorbatchev, qui vient d'arriver au pouvoir. On va parler bien sûr de ces livres qui mettent en scène de manière magistrale, je vous disais en début de présentation, l'Asie centrale de l'époque soviétique. En 1990, il se rend en Europe, il devient ambassadeur de l'URSS, puis de la Russie au Luxembourg, il demeure jusqu'en 1994. Et donc, après l'indépendance du Kyrgyzstan en 1991, il devient personnage dominant de la scène politique. De 2000 à 2008, ambassadeur de son pays en résidence à Bruxelles auprès de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas. Et finalement, il est victime d'un malaise en Russie lors d'un tournage d'une adaptation cinématographique d'un de ses romans. Il meurt à 79 ans d'une inflammation pulmonaire dans un hôpital de Nuremberg en Allemagne. Et après que sa dépouille ait été exposée à la salle philharmonique de Bichtek, il est enterré et ce jour a été décrété deuil national où plus de 20 000 personnes lui rendent alors hommage. Ses livres sont traduits en plusieurs langues. Djamila est ainsi traduit en français dès 1959 par Louis Aragon. Excusez du peu, ce qui contribue bien sûr à lui donner une notoriété internationale. Et on va commencer par présenter ce livre que tu as lu, Marlène.
Eh bien oui, d'accord alors. Merci.
Voilà, c'est un peu long, mais c'est un personnage important de cette littérature d'Asie centrale, extrêmement connu, que je ne connaissais pas. Donc, ça m'a fait très plaisir, Claire, que tu me fasses découvrir cet auteur, que je conseille vivement à tout le monde.
Ok. Alors, comme tu le disais, pour poursuivre ta super introduction, c'est donc Louis Aragon qui a découvert l'ouvrage Djamila. Et en fait, dans l'ouvrage, il y a carrément toute une préface faite par Louis Aragon. Et je vais juste citer un tout petit passage parce que je trouve qu'en plus, ça résume bien ce qui se passe en ce moment et ça donne un petit peu d'espoir. Donc, Aragon dit, en lisant ce livre, « Mon Dieu, comme le monde est encore jeune et beau, comme rien n'est épuisé, comme tout peut encore faire battre le cœur des hommes. » Voilà. C'était le petit passage de la préface que j'ai beaucoup aimé et qui traduit tout à fait ce qui se passe dans ce roman. Alors, ce joli roman, c'est une ode à l'amour, vraiment. Donc, en fait, l'histoire se déroule durant la guerre. Voilà. Et se déroule durant la guerre. Et se déroule aussi dans les contrées natives de l'auteur, en fait. Donc, je pense qu'il a mis beaucoup, beaucoup de personnel dans ce récit. Alors, on y découvre des descriptions mais vraiment profondes des paysages et des coutumes. On y découvre les traditions kirghizes et même parfois kazakhes, puisqu'en fait, ça se déroule vraiment tout près de la frontière. Donc, l'ouvrage est rempli de petits détails sur la vie là-bas, les traditions. Des noms aussi, qui sont tirés de là-bas, que j'ai appris, puisque je ne connaissais pas. Donc, alors, je ne sais pas trop si on prononce l'ail ou l'ail, parce que comme il y a un tréma, je ne sais pas trop. Donc, j'espère que personne ne m'en voudra.
Je crois qu'on s'est tous posé la même question. Hein.
Voilà. Donc, je ne sais pas. Après, je me suis dit, bon, on va rester sur l'ail, parce que ça me faisait beaucoup penser. Voilà. Donc, l'ail pour les villages, les djigites pour les écuyers de guerre, les britchka pour les chariots, les ariks pour tout ce qui est les canaux fluviaux, voilà, entre autres. Donc, dans ce roman, ce qu'on ressent, c'est la chaleur de la steppe, mais vraiment, on la vit, on la ressent. La poussière aussi, parfois. Et puis après, quand il y a des vallées et qu'il y a un cours d'eau, donc ici, qui est le cours d'eau principal, où quasiment tout le récit se passe autour de ce cours d'eau, le cours d'eau du Courcouréou. Alors, j'ai eu la curiosité d'aller voir si c'était vrai, du coup, si ce petit fleuve, cette petite rivière avait été inventée ou pas, mais non, c'est réel. Donc, c'est compliqué à trouver, mais c'est réel. Donc, et dans tout ça, dans tout ce décor vraiment un peu aride, on découvre un narrateur, un jeune narrateur, Seyt, qui travaille pour le kolkhoz, donc pendant la guerre, et lui, il est chargé de nourrir les soldats. Il récupère sur son chariot les sacs de blé qui sont ramassés par la majorité des femmes qui restent dans les villages. Et il doit les amener dans une gare pour qu'après, ce soit distribué pour les soldats du front. Donc, on se dit, ce jeune Seyt, il est amoureux de sa belle-sœur. C'est ce qu'on s'imagine. Et il décrit en fait sa belle-sœur comme vraiment une femme belle en tout point. Et vraiment, on l'imagine parce que... Quand il part dans ses descriptions, c'est vraiment sublime.
C'est Djamila, sa belle-sœur.
Djamila, voilà. Alors, je vais venir. Donc,
perspicace.
Je suis, hein.
Vous avez vu. Et en fait, elle est tellement belle qu'il y a vraiment tout le monde qui gravite autour d'elle. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'en a le narrateur. J'étais jaloux d'elle comme les jeunes frères sont jaloux de leur sœur. Et si j'apercevais autour de Djamila des jeunes gens, alors je m'efforçais n'importe comment à les gêner. je me gonflais et je les regardais avec une telle méchanceté que c'était comme si j'avais dit avec mon visage « Ne faites pas trop les rigolos, c'est la femme de mon frère et ne croyez pas qu'il n'y ait personne pour prendre sa défense. »
Fais le coq.
Voilà, ça met... Alors du coup, je me suis dit, bah, sans aucun doute, le triangle amoureux, il va se jouer là. Jamilia, l'héroïne, Sait, le narrateur, et Sadik, le mari, qui est parti à la guerre, et dont on a des nouvelles qu'une fois par mois, et très peu, avec juste une lettre qui arrive à la famille. Ben, en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. Il y a bien une très très jolie histoire d'amour, mais qui va se jouer avec l'arrivée au village d'un certain Daniar, un soldat qui a été blessé au front, mais qui continue à être réquisitionné par l'armée pour lui aussi effectuer les livraisons de grains. Et comme Jamilia, c'est une force de la nature quelque part, elle a aussi été embauchée pour faire ses trajets, et donc ils se retrouvent à trois, Sait, Daniar et Jamilia, à faire des allers-retours. Et là, donc, on revient dans une description des paysages, leurs allers-retours. Voilà. Et en fait, le roman va basculer, mais vraiment, on le comprend tout à fait, quand Daniar, qui ne parle quasiment à personne, se met à entonner des chants pendant les trajets pour aller livrer ses grains. Voilà. Donc, le narrateur, lui, il est tellement séduit par ces chants-là qui décide que la beauté du monde, l'amour de la steppe, l'amour de la vie, l'amour de toutes les personnes qui l'entourent, lui, il va décider après de peindre ses émotions. Et donc, sans vous dévoiler la fin, en fait, c'est à cause, quelque part, d'une peinture qu'il a faite que le dénouement se joue et qu'on comprend réellement ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je ne vais pas trop vous raconter la fin, mais voilà. Donc, c'est une jolie histoire d'amour. Par contre... Je vais un tout petit peu digresser sur ce qui s'est passé. Donc, tout à l'heure, Ludo, ça avait été mis en film assez rapidement. Il faut savoir que Jamilia, maintenant, au Kyrgyzstan, c'est un classique. D'accord. Pourtant, c'est quand même un roman en fait, qui est vraiment dans la transgression des traditions. Mais vraiment. Et en fait, en 2018, il y a une ethnographe, si je ne dis pas de bêtises, Aminatou Echar, qui a eu l'autorisation de faire un documentaire sur Jamilia et qui, du coup, le propose. Il est disponible sur Les Yeux d'Oc, on l'a en ressources numériques, donc j'ai eu la curiosité d'y aller. Et en fait, elle a recueilli la parole des femmes sur le sujet de l'amour des femmes, de leurs conditions actuellement, en fait. Et tous les témoignages convergent sur le fait que, depuis Jamilia, qui pourtant est devenu un classique, les choses ont un tout petit peu évolué. Donc c'est assez, intéressant de savoir que vraiment, il a créé une fracture dans les traditions. Parce qu'en fait, dans le roman, Jamilia, elle a été enlevée à sa famille par son mari, qui ne lui a pas laissé le choix, ça fait partie des traditions. Mmh. Il l'a enlevée, et elle n'a plus de nouvelles de sa famille, elle n'a plus l'autorisation d'aller les voir, et elle était très jeune. Et ça fait partie des traditions qui existaient encore, et qui existent encore. Voilà. Et dans le documentaire, en fait, on voit plusieurs femmes qui parlent de leurs conditions. Certaines qui adhèrent au fait que Jamilia a transgressé les règles. A décidé que l'amour pour elle, ça représentait autre chose. Et qu'elle a décidé de casser les traditions pour s'écouter elle. Et pour écouter son amour. Mmh. D'autres qui estiment que ce qu'elle a fait, c'est vraiment pas bien, qu'elle aurait jamais dû faire ça, que les traditions, si elles sont là, qu'il faut les suivre et les respecter. Donc voilà, c'est un tout petit livre. On se dit, oui, c'est juste une histoire d'amour, c'est joli, ça décrit bien les paysages. Mais en fait, il faut savoir que derrière, il y a toute une histoire et que ça a vraiment interrogé les femmes sur leurs coutumes, leurs traditions, la façon dont elles existent. Et voilà, et on se rend compte qu'il y en a certaines qui, du coup, ne veulent plus se laisser faire, qui divorcent plus facilement qu'avant, ou même qui refusent les demandes en mariage qu'elles reçoivent, mais régulièrement. Quoi.
C'est compliqué encore à l'heure actuelle, Marlène, de divorcer ou de refuser un mariage
Alors,
en 2020 côté. Hein.
Ce que je sais par rapport au documentaire, puisque je ne suis pas non plus
spécialiste des mariages et des divorces voilà. En Ouzbékistan.
Mais, comment celles... ça
C'est ça. qui ont divorcé, elles témoignent quand même du fait que c'est très compliqué avec leur famille et que dans certains cas, elles coupent les ponts avec leur famille parce qu'elles sont rejetées. Voilà. Mais ça se fait encore. Alors... Il y avait moins quand même la tradition religieuse. Mmh. C'était plus des coutumes, en fait, oui. Que vraiment... Parce que maintenant, il y en a beaucoup qui témoignent aussi sur le fait que la religion musulmane change encore la donne actuellement, puisque ça s'imprègne de plus en plus dans ces pays. Voilà.
Parce que l'enlèvement, c'était quelque chose de fréquent. Apparemment, ils le font encore, mais de façon presque pas consentie. Mais c'est le futur mari avec ses amis qui arrive un soir et qui va enlever... Mmh. C'est la promise, mais parfois... savent plus ou moins ce que ça va arriver. Et certaines, ça, a priori, ça n'accommode avec une facilité qui est déroutante, justement. Parce que c'est tellement loin de nos coutumes à nous que...
Voilà. Ça se passe dans la communauté gitane, chez nous. Hein.
Oui,
mais,
aussi, oui.
Le couple est consentant. Hein.
Oui,
c'est
voilà.
Juste voilà, pour...
Là,
c'est à ce moment-là que les parents
oui.
Savent qu'il y a un mariage ouais. qui doit se préparer.
Ouais. Oui, et comme souvent c'est dans les steppes, c'est souvent très loin de la famille, de la famille dans laquelle la future mariée a grandi. Quoi.
C'est ça. Voilà. Mais là, a priori, si j'ai bien compris le livre, Jamilia, elle est enlevée vraiment loin de chez elle.
Ouais.
Marlène, rappelle-nous comment on fait pour revoir ce documentaire. Rappelle-nous le site internet, l'adresse et comment on fait rapidement.
Oui, alors sur bibliolozère.fr, il y a donc sur les ressources numériques qui sont mises à disposition gratuitement par le département. Et ensuite, c'est sur les films documentaires et c'est la ressource Les Yeux Doc. Voilà.
Et on vous conseille d'aller le voir. Oui. Merci beaucoup, Marlène. On va continuer avec toi, Pauline, qui a lu aussi un recueil de nouvelles cette fois-ci de
c'est
cet
ça.
Auteur.
Ouais. Alors, un recueil de nouvelles, mais on est un peu à la frontière entre la nouvelle et le roman, puisque il y a trois nouvelles dans mon recueil. Et c'est des nouvelles, deux d'entre elles sont assez importantes. C'est presque des petits romans. Du coup, je me suis interrogée, tiens, quand est-ce qu'on passe de nouvelles à romans ? C'est marrant.
Oui.
Alors, la première s'appelle « Mon petit peuplier ». Ça a l'air d'être un arbre important pour cet auteur ou pour le pays. J'avoue que j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais en tout cas, c'est un arbre qui revient, moi, dans mon recueil, donc c'est assez étonnant. Alors, la première nouvelle, mon petit peuplier, moi, m'a pas forcément emballée. Parce que, et tu l'as dit tout à l'heure, il y a cette poussière partout, tout le temps. C'est assez triste. Moi, je suis dans la neige. Par contre, je suis à la frontière entre la Chine et le Kyrgyzstan. C'est l'histoire d'un transporteur routier qui fait des routes difficiles, qui prend des cols enneigés avec son camion, qui se retrouve souvent coincé. Et puis, les petits accidents de la route. Alors, nous, toi, tu avais un fleuve, moi, j'ai une route.
Oui.
C'est assez rigolo de parler du même auteur parce qu'on retrouve des similitudes.
Moi, j'ai une montagne.
Tu as une montagne. Et donc, il se retrouve un jour embourbé sur son trajet et il va faire la rencontre de sa femme. Et là où la tradition n'est pas respectée chez moi, c'est qu'ils vont se marier sans en parler à sa famille, à elle. Mais finalement, ce n'est pas tout le thème du roman, c'est de la nouvelle. Je dis roman parce que vraiment, il se passe plein de choses dans cette histoire. Je ne sais pas où m'arrêter de vous raconter. Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans un petit texte. Mais bref, il va rencontrer cette femme, il va tomber amoureux d'elle en regardant à peine ses pieds depuis sous son camion. Il est en train d'essayer de se débrouiller pour sortir de la boue. Il voit ses pieds et tout de suite, on sent qu'il se passe quelque chose en lui. Et donc, ils vont se marier sans prévenir sa famille. Elle n'osera plus aller voir sa famille. Mais finalement, tout ne va pas bien se passer. C'est un roman assez nouvelle. Je vais y arriver assez... triste, assez grise, assez boueuse, enneigée, poussiéreuse. Et l'histoire de notre héros qui s'appelle Ilias est finalement assez dure. Et j'en suis ressortie un peu maussade, un peu... Bah vraiment comme l'ambiance de tout cet endroit où il vit, où on a l'impression de traîner toujours, de s'embourber. Et c'est ça, il s'embourbe. sans arrêt. Il va tomber amoureux de cette fille. On voit une très belle histoire d'amour qui arrive. Et ben finalement, ça va peut-être pas être le cas.
On n'en dira pas plus.
Je sais pas vraiment où m'arrêter pour vous raconter l'histoire, mais il y a aussi de présent pas que cette histoire d'amour, toute son histoire de transporteur. Comment on passe des cols entre le Kyrgyzstan et la Chine, à quel point c'est difficile, la vie de routier, la vie dans cet endroit qui est pas facile. Bref, l'ambiance est très grise. Si je devais décrire cette première nouvelle, c'est assez gris. Mais du coup, pour vous remonter le moral, je vais vous parler de la nouvelle qui donne son titre au recueil et qui, là, alors là, m'a émerveillée, le premier maître. Alors, c'est pareil, l'ambiance au départ ne paraît pas forcément merveilleuse. On est dans un Nile. c'est en fait une scientifique émérite qui se souvient de son enfance en retournant dans son village. Elle entend parler de son ancien maître d'école et elle se souvient. Et elle raconte l'arrivée. Donc, elle vit avec sa tante et son oncle qui sont alcooliques, qui la violentent un peu, qui ne sont pas très contents de s'occuper d'une orpheline. Alors, on ne sait pas trop. On ne sait pas comment elle a perdu ses parents, ce n'est pas le sujet de l'histoire, mais bref, ils doivent s'occuper d'elle et ils ne la traitent pas très bien. Elle travaille beaucoup, ils sont assez violents, en tout cas dans leurs mots et dans leurs actes, sûrement ils la battent. Enfin, bref, l'ambiance est assez triste. Et arrive ce maître, envoyé par le régime pour éduquer les enfants du village. Donc, les enfants sont ravis, sont émerveillés par ce maître qui apporte la connaissance, alors qu'en fait, il sait à peine lire, à peine écrire, pas trop compter. Mais bref, il monte cette école et il décide, donc vraiment communiste, il décide de prendre son rôle très, très, très au sérieux, c'est-à-dire qu'il va sortir tous les enfants qu'il peut de la méconnaissance, enfin bref, il est là pour aider, même si lui-même n'est pas forcément instruit, savant, et loin de là. Et donc il va s'occuper de cette petite fille, notamment, c'est l'histoire qu'on raconte, mais il s'occupe des autres enfants, et il va décider qu'il veut l'envoyer à l'école en ville. Et elle, évidemment, va s'attacher énormément à lui, il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle, donc d'un coup c'est merveilleux. Et donc, c'est toute cette histoire d'attachement entre une petite fille et son maître d'école. Alors, si on lit la quatrième de couverture, ce que j'ai fait après avoir lu la nouvelle, on entend comme toi, c'est la rupture entre la tradition et la modernité, l'arrivée de l'école dans les villages, etc. Alors oui, c'est là. Mais pour moi, le fond de l'histoire, c'est vraiment cette histoire d'une petite fille qui, on s'occupe enfin d'elle, et tout est merveilleux. Et c'est très touchant de voir ce maître d'école qui s'occupe de ses enfants, cette petite fille qui est émerveillée par la connaissance qu'on lui apporte, par le soin qu'on lui apporte, qui veut qu'une chose, c'est aller à l'école pour faire plaisir à son maître et pas pour apprendre, mais vraiment, enfin, elle va apprendre évidemment, mais elle veut faire plaisir au maître d'école et c'est très bien raconté, c'est très doux, il y a vraiment une histoire. C'est une belle enfance, une enfance grise qui se transforme en quelque chose d'un peu merveilleux juste avec l'arrivée d'un maître d'école dans un village. Et ça m'a énormément touchée. Je comprends pourquoi c'est cette nouvelle qui donne son titre au roman. Mmh. Okay. On recueille. Voilà.
Merci Pauline. Mais je vais rapidement faire le lien avec le livre que j'ai lu. Du coup, parce que c'est un peu comme toi, c'est l'histoire d'un enfant qui va aller à l'école. C'est la tradition face à la modernité, mais cette fois-ci dans l'autre sens. C'est les hommes qui ont oublié leur tradition, qui met en avant. Donc c'est complètement à l'opposé de ce que vous avez raconté jusqu'à présent. Ça se passe à la frontière du Kyrgyzstan et du Kazakhstan, moi, cette fois-ci. Donc c'est là où il a vécu jeune. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 7 ans, justement, qui est dans une petite communauté de forestiers. Donc il est avec il a été délaissé par ses parents, élevé par son grand-père dans ces montagnes qui sont rudes, dures, comme les gens qui finalement habite cet endroit, mis à part donc ce jeune garçon et son grand-père qu'on surnomme le pastre Moumoun, car il est prêt à aider tout le monde, extrêmement gentil. Et on a deux personnages extrêmement gentils dans un milieu hyper dur. Et ce grand-père donc lui raconte les contes oubliés de son pays, notamment ceux du Maral, la mère des Marals à la belle ramure, mère de leur peuple. Alors le Maral, c'est un cerf d'Europe qui a disparu des montagnes du Kyrgyzstan. Et donc, il explique cette disparition de cet animal en même temps que les contes qui faisaient sa gloire. Voilà. Dans toutes les sociétés occidentales, on oublie ces histoires, on vient à chasser ce qu'on a vénéré, finalement. Et cet animal, dans ce livre, va revenir. Donc, ce jeune enfant découvre avec son grand-père le retour des Marals et toutes les histoires qui vont avec. En même temps, ce jeune enfant se crée un deuxième conte, parallèlement. Il rêve, bien sûr, de retrouver quand même ses parents, même s'il adore son grand-père. Il sait que son père travaille sur un bateau qui peut voir au loin, un bateau qui remonte un lac. Et donc, son grand-père lui offre des jumelles et il se retrouve en haut de la cime pour regarder ce bateau qui arrive. Il se rêve en poisson. Il aime aller dans les torrents et il se rêve en poisson aller dans le torrent pour redescendre tout le torrent, revenir au niveau du lac pour voir son père à côté du bateau, en disant « Papa, c'est moi ». Enfin, c'est extrêmement beau. Et il y a ces deux contes qui nous tiennent en haleine tout au long du livre et de l'histoire. C'est un enfant qui est extrêmement poétique. Il nomme les rochers, il leur parle, il les fait parler, il nomme les arbres, il parle à son cartable. Un jour, voilà, il réussit à un cartable parce qu'il est assez grand pour aller à l'école qui est tout en bas dans la ville. Donc son grand-père fait des allers-retours pour l'amener à cheval. C'est extrêmement beau. À côté de ça, leur vie est empoisonnée par l'oncle qui habite à côté, Oroskoul, qui est marié à sa tante, qui ne peut pas avoir d'enfant, donc il passe son temps à la battre. Sa grand-mère, qui n'est pas sa vraie grand-mère, qui arrivait après, qui dit « mais tu es un étranger ». Alors lui se dit « mais pourquoi c'est moi l'étranger ? J'étais là avant elle, c'est pas normal ». Voilà, son oncle croit en plus rien, il abat les plus beaux arbres, et il y a vraiment cette ambiguïté entre cette bonté d'un côté et cette noirceur, et on va retrouver ça tout au long du livre. Bien sûr, je vais pas vous raconter la fin, l'épilogue est extraordinaire et très dramatique. C'est un drame total. Et c'est très, très beau. Alors, moi qui déteste et qui aime quand les heures se finissent bien, bah alors là, j'en ai eu pour. J'ai pensé à Popo. Voilà, c'est vraiment un conte moral et une écriture simple et poétique qui se sert de l'enfance pour décrire un monde en plein changement. Donc, le monde kirghiz, sa mythologie, son respect pour la nature, où l'homme était un maillon essentiel. Et finalement, j'avais écrit la fin, donc je ne vais pas vous la lire. voilà, on se plonge dans l'enfance, la beauté, la bonté, également la noirceur la plus profonde. Je vais vous lire un passage. Quand cet enfant voit la nature qui l'entoure, « Les liserons des champs, bien que ce soit des mauvaises herbes, étaient toujours les fleurs les plus intelligentes et les plus gaies. Ce sont elles qui accueillent le mieux le soleil du matin. Les autres herbes ne comprennent rien. Le matin, le soir, tout ça, ça leur est égal. Tandis que les liserons, dès qu'un rayon vient les réchauffer, ils ouvrent les yeux et ils rient. Un œil d'abord, puis le second, et l'un après l'autre. Tout leur cornet s'ouvre. Blanc, bleu très clair, mauve, de toutes les couleurs. Si tu restes près d'eux sans bouger, sans faire de bruit, il te semble qu'en s'éveillant, ils se chuchotent des histoires. » Voilà. Et on retrouve également donc l'histoire de cet enfant qui a perdu son père jeune, cet auteur qui s'est fait déporter, je l'avais dit en introduction, lors des purges staliniennes. Et donc voilà, on peut penser aussi qu'on voit cet enfant orphelin, qu'il met une part de lui dans ce livre. On va faire une pause musicale, si vous le voulez bien. Donc,
alors,
du coup,
qu'est-ce que tu nous as trouvé ?
Ah, ben, je suis allé en Kyrgyzstan.
Un
Kyrgyz. Alors, il s'appelle Zainidine Imainlef. Il chante et il joue de la luth. Il chante le morceau Gul. Et on revient de suite après.
Ouais, super.
Yalan da bana Kerkhagen.
Allez, on revient pour cette émission sur l'Asie centrale. On va partir en Ouzbékistan. Qui a lu un livre d'un auteur ouzbek ?
Moi aussi. Vas-y Valérie.
Cool. Ah. Tout aussi bien, c'est le même.
Non, j'aimerais qu'on parle de Nuit.
Ah, bon, donc bah alors, c'est clair.
Voilà, de l'auteur Tchulpan.
Tchulpan, oui, bien sûr. De son vrai nom, Abdelhamid Suleiman. Il l'a aussi écrit avec pas mal d'autres pseudonymes dans la presse. D'Europe voilà, et d'Asie centrale. Alors, donc c'est un ouvrage qui s'appelle Nuit, très beau roman, dramatique. Ah, je vais parler plus près du micro.
Voilà, c'est très bien.
Faut savoir qu'il a aussi son pendant qui s'appelle Jour, mais qui est resté à l'état de manuscrit. Il a été saisi par les autorités russes et bon, il est pas réapparu depuis, donc on désespère pas. Il y a un gros travail. Qui est fait en sa faveur. Mais bon, voilà. Alors, pour l'instant, on a Nuit. C'est assez incroyable. Donc, c'est une vraie plongée dans l'Ouzbékistan du début du XXe siècle. Donc, l'action se joue entre 1916 et 1917. Et donc, on commence par suivre Zebi. Donc c'est une jeune fille, une adolescente, qui vit encore chez ses parents. Donc son père est un disciple d'un soufi, donc il s'appelle Razak Soufi, et il passe son temps chez le père Ishan, donc il lui enseigne tout le savoir soufiste de l'islam. Et puis, donc en fait, il y a plein de duos de personnages. Donc ça, c'est un des duos, par exemple. Et Zebi et sa mère en forment un autre au début du roman. Elles sont très, très proches. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de machisme à l'époque, parce que, voilà. Mais enfin, bon, le père est carrément, sacrément pas très sympa, ni avec sa fille, ni avec sa femme, par exemple, sa femme, il l'appelle perfidie. Alors, c'est horrible, c'est... Non, mais donc je vais quand même vous lire un mini
passage. C'est pas mal, ça, je le retiens. Enfin,
il faut absolument... Enfin, voilà. Donc, c'est un tout petit passage qui raconte ça. Donc, c'est le Razak Soufi. Là, il dit « C'est à ta mère que j'en ai à ta mère. Jusque dans cette situation, on ne le surprendra pas à laisser échapper un Mariam. Donc, cette coutume du vrai musulman, notre soufi ne l'observait pas. Il est vrai, avec la plus grande exactitude, puisqu'il gratifiait Kurban Bibi, son épouse, du seul sobriquet de perfidie. Perfidie, passe-moi mon turban. Perfidie, où est encore passée ta satanée fille? Perfidie, apporte-moi mon livre de comptes, etc. » Donc Kurban Bibi n'était d'ailleurs pas tout à fait dénoué de perfidie, soit par vengeance du soufi, soit que la chose se fût trouvée en elle à l'état naturel. Loin d'être fâchée du mépris de son mari pour le commerce des femmes en général, mais piquée au vif par le dédain que le saint homme lui appliquait à elle aussi, Kurban Bibi prenait un malin plaisir à entamer avec lui des conversations où elle se savait se montrer mordante. Elle prenait toutefois garde de ne... d'éviter ce qui risquait de déclencher la fureur du soufi et se satisfaisant de l'agacer. Donc c'est assez.
Elle est vraiment perfide en fait.
Voilà, mérité, voilà elle. Et c'est ça qui est assez, enfin que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'en fait les personnages, ça s'apparente à un conte, mais les personnages sont beaucoup plus profonds que les simples contes. Donc il n'y a pas que les méchants et les gentils. C'est-à-dire que les gentils peuvent, avoir une certaine forme entre guillemets de perfidie au fond d'eux, et les méchants ne le sont peut-être pas. Toujours tant que ça, ils peuvent parfois être touchés d'un petit moment de grâce, on va dire. Ou bien les gens très bêtes, il y a un personnage hein, franchement qui il a l'air assez limité intellectuellement et pourtant il a une charge d'administration, hein, donc c'est le Mikboshi comme on appelle, donc en ouzbek c'est le responsable un peu de 1000 hommes. Donc bon, on sent qu'il est, quand même pas bien malin et il est conseillé par quelqu'un en revanche qui l'est vraiment. Donc c'est Mir Yacoub et là c'est la deuxième histoire qu'on va suivre donc au long du roman. C'est ce conseiller qui est très rusé, très futé. Alors l'autre comme il est un peu bêta, il va toujours se mettre dans des situations où il sait pas trop comment s'en sortir. Puis alors mais qu'a fait Mir Yacoub ? Alors il hurle, il tape des colères dans la maison et tout ça. Et le mec arrive comme ça. Il a toujours une solution magique et formidable. Et en plus, il s'en tire pour gagner de l'argent. Donc voilà, c'est vraiment très, très cocasse.
Et c'est un roman, alors ?
Et c'est un roman, oui.
D'accord.
moi, j'ai vraiment beaucoup ri. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Mais il n'y a pas que ça, parce que, faut le dire aussi, c'est quand même un roman qui finit pas bien. Derrière un peu tous ces aspects folkloriques, on va dire.
Je le lirai pas.
Et cocasse, il y a des vraies questions de fond qui sont abordées, notamment tout le paysage social où on sent qu'il y a une vraie misère, une vraie pauvreté, qu'il y a une vraie injustice. Ce Mikboshi là, et donc il a une charge, donc il est censé faire respecter l'ordre. Mais on sent que bon, ça, de toute façon, ça l'intéresse pas. Donc, pourvu que les gens se taisent, mais voilà, donc il ne rend pas justice. Tout ce qui l'intéresse, voilà, c'est que les gens ne fassent pas de révolte. Et des révoltes, il y en a. Donc, à la fin du roman, il y a cette fameuse révolte des cotonniers qui apparemment a vraiment eu lieu.
Ce qui parle de la domination russe, parce qu'on sait que c'est un auteur qui en a fait un peu son fil conducteur.
Oui. Tout à fait. Alors justement, ce Mikboshi,
la lutte contre la domination
voilà,
russe.
Il est investi du pouvoir par ce qu'ils appellent le padishah blanc. Et en fait, le padishah blanc, c'est le tsar de Russie. Donc c'est comme ça qu'on l'appelle en turc. Les pouvoirs locaux sont investis par le pouvoir central de la Russie. Donc on le sent. Voilà, sur le fond. Et puis, on parle aussi, parce que donc Tchulpan, il est très connu dans ces pays-là pour être aussi quelqu'un réformiste et quelqu'un qui a participé au mouvement du djadidisme, ce qui lui a valu malheureusement d'être assassiné par le pouvoir de l'URSS donc en 37 ou 38.
Alors qu'il était en train d'écrire la suite en plus de nuit, c'est ça
ouais. Hein
5 octobre 1938.
Voilà.
Exactement.
Parce qu'on lui reproche justement ses idées nouvelles. Alors le djadidisme, c'est plutôt un mouvement de modernisation de l'islam. Donc on en parle par exemple, il raconte l'ouverture de ses écoles où on enseigne aux enfants que la Terre est ronde.
Oh, les
donc je me suis dit, ah tiens, c'est marrant parce qu'on a ça aussi. Enfin, chez les chrétiens, bon, je ne savais pas. Mmh. Et donc voilà, a priori, on se dit c'est une bonne chose et tout ça. Mais voilà, ça s'accompagne aussi de toute une critique de la colonisation russe. Et évidemment, ça ne plaît pas.
D'ailleurs, il a été exécuté pour activité contre-révolutionnaire. Contre la révolution soviétique. Et finalement, c'est en 1991, c'est à l'indépendance de l'Ouzbékistan, que paraissent les premières rééditions de cette œuvre qui a été proscrite pendant toutes ces années et dont l'Ouzbékistan a reconnu sa place centrale dans l'histoire littéraire de cette région du monde. Et comme tu l'expliquais, il est extrêmement connu sur toute l'Asie centrale.
Oui, et alors, la Souvragie, donc il est paru chez les éditions Bleu Autour. Je suis en train de chercher l'année, c'est 2008 ou 2007. Et c'est la première traduction dans une langue européenne.
D'accord.
Voilà. Et c'est Stéphane Dudoignon donc, qui a fait la traduction. Il faut en parler parce qu'à la fin, il y a tout un appareil disons, scientifique, à la fois sur la traduction des nombreux mots étrangers, sur la présentation aussi de certains personnages historiques qui balaient le roman, et puis aussi des notes voilà, sur le contexte qui nous permettent aussi de situer un peu certaines choses, parce que c'est vrai que pris comme ça à brûle pour point, on peut y avoir des moments de flottement. Voilà, donc c'est bien d'aller voir les petites astérix à la fin du livre pour voilà, mieux cerner le roman. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est difficile à lire, c'est très intéressant. C'est aussi une vraie plongée dans le monde ouzbek. Donc on apprend plein de choses. On apprend par exemple qu'il au beau jour, quoi. Donc il déjeune à l'extérieur dans des cours qui sont fermés, puisqu'il faut absolument pas que les femmes paraissent aux yeux du monde. Quand elles sortent, elles mettent un paranji, donc c'est vraiment un grand habit qui couvre les pieds jusqu'à la tête, avec une fenêtre pour les yeux qui est encore recouverte de crins de cheval. Donc voilà, hein, c'est un peu l'habit là qu'on met en Afghanistan. Comment ça s'appelle
cet habit ?
Enfin bon, bref, le nom m'échappe là, tout bleu là.
Je sais pas.
Voilà.
Valérie.
Non, j'ai loupé le cours sur les tenues vestimentaires folkloriques d'Ouzbékistan entre 1900 et 1930.
Bon, non, mais là, le mot m'échappe.
Quand le professeur en a parlé.
On devait être en train de discuter.
Les hommes, eux, ils portent des manteaux qui s'appellent des tchapans, des turbans, et donc ils mangent des galettes de pain à l'oignon, du pilaf, du ragoût, des raviolis avec de la crème aigre.
Ah, des galettes, comme en Bretagne.
Ouais. Et oui, on partage ça avec l'Ouzbékistan, oui.
Voilà, et il est aussi question de chansons. Je ne sais plus qui a raconté
c'est moi,
ça.
Sur
voilà.
Oui.
Donc Zebi, elle se fait remarquer par le Mingboshi parce qu'elle chante très bien. Elle a vraiment une voix. Voilà, on l'appelle Loiselle. Elle joue du luth. C'est aussi un grand moyen d'expression pour ces femmes, voilà, qui sont souvent quand même reléguées dans les maisons aux tâches domestiques. Et puis, donc Zebi, voilà, va devenir la quatrième femme du Mingboshi. Et voilà. Et en fait, à travers ça aussi, on sent le point de vue de l'auteur qui trouve que ces pratiques sont complètement voilà, hors d'âge. Et donc, c'est un peu le ressort, le nœud dramatique du roman, en tout cas pour ce personnage. Ça ne va pas être une chance pour elle.
Il a écrit vers 1930, ce livre. Voilà, oui. Remettre quand même à l'époque. Voilà. Ok. Merci beaucoup Claire. Allez, on change de pays. Attention, une petite question. On va aller au Tadjikistan. Qui a lu un livre de ce pays ?
Moi.
Yes.
Ouais, c'est Claire Liz. Et non, Perfidie, tu parleras en dernier.
Oh,
je rigole.
Non, je suis vexée.
Alors, attends, je vais t'aider. Ouais. Hein. Alors, on va lire un livre de Barzou Abdourazokov. Ça te va ?
Oui, j'aurais pas fait mieux, franchement.
Ouais, voilà.
Donc, en fait, c'est un tout petit livre avec 8 monologues de femmes. Il se lit très facilement parce qu'en fait, on peut se retrouver dans certains portraits qui sont faits. Ils sont tous très bouleversants. C'est vraiment des portraits de vie, souvent rudes, où l'on découvre des codes sociaux, mais très particuliers, qui nous semblent, nous, très, très, très lointains, avec beaucoup de violence, où la femme a un statut qui est vraiment particulier, parce qu'elle n'est pas défendue, même pas par les autres femmes, donc c'est bouleversant. Donc beaucoup de violence verbale et physique, mais il y a aussi beaucoup de philosophie, de force humaine dans ces portraits. Il y a aussi beaucoup de résilience. Et ces femmes sont quand même très extraordinaires dans leur façon de leur vie, de leur histoire, parce que c'est vraiment, elles racontent vraiment. Alors, c'est des toutes petites, des tout petits portraits, c'est 3 pages par femme.
C'est des portraits de femmes réelles.
C'est des portraits de. Alors, ben, je pense, hein, ben, j'imagine, parce que oui. Comme c'est écrit, ça donne vraiment l'impression que c'est une femme qui a raconté sa vie. Donc, elle a en même temps un regard sur elle qui est Il y a un double regard, c'est-à-dire il y a le regard de la société qu'elle a elle-même sur elle, c'est-à-dire sa place et ce qui est normal, donc qui fait partie des traditions, et en même temps elle, ce qu'elle a vécu, comment elle l'a vécu, comment elle le mâchouille pour l'ingérer et le dépasser. Donc cette façon de résilier dans ses portraits. Et entre autres, moi, il y a un portrait qui m'a beaucoup touchée parce que c'est une jeune femme qui est amoureuse, qui va à une soirée. Et en fait, son fiancé, entre guillemets, la fait boire. Et en fait, après, il la viole. Et puis, il en fait profiter tous ses camarades. Les jeunes filles qui sont là le savent. Personne ne dit rien. Sauf que le lendemain, c'est les filles qui vont dénoncer le truc. Et elle va être complètement rejetée et par sa famille et par tout le monde, alors que bon, c'est elle qui a vécu quand même le truc. Donc on se dit, waouh, c'est violent. Victime, ouais. C'est très violent. Et donc, il va lui falloir beaucoup de temps pour remonter. Mais à un moment, elle dit quelque chose qui est quand même très beau parce qu'elle y arrive. Hein. Alors, elle y arrive parce que tout d'un coup, c'est comme si elle donnait un coup de talon au fond de la piscine, j'allais dire. Et puis, elle remonte, elle trouve cette force en elle. Et elle dit... Alors, si j'arrive à retrouver, parce que je n'ai pas osé souligner, parce que, le livre n'est pas à moi. Mais...
Ah bon ? Tu ne mets pas du Stabilo, toi, sur le livre que Claire nous prête ? En attendant, c'est le tchadri, le vêtement.
Ah oui, exact. Oui, voilà, c'est ça.
D'Afghanistan. Ça m'est revenu.
Oui. Merci, Ludo.
Et donc, du coup, elle dit, seulement, contrairement à pas mal d'autres, j'ai compris que je ne pouvais pas accepter cette situation d'avant. Plus jamais, je ne permettrai qu'on m'humilie, qu'on m'outrage, qu'on me piétine ou qu'on lève la main sur moi. Et du coup, elle remonte, elle refait sa vie, elle trouve une solution. Alors, elle ne sait pas trop si c'est la foi, si c'est une force en elle, si c'est la nature. Enfin, elle se pose plein de questions, pourtant dans une description très courte. Hein. C'est très fort. Et elle arrive à remonter et à refaire sa vie. Et c'est très beau parce qu'on voit vraiment qu'elle a vécu des choses qui sont hyper douloureuses. Mais de ça va jaillir une personne qui va être d'une force et d'une ouverture d'esprit, du coup, assez impressionnante. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce tout petit livre. En plus, j'avoue que je ne suis pas une grande lectrice, donc c'était parfait pour moi.
Donc c'est une série de 8 petites nouvelles, c'est ça? Ou c'est des femmes qui dialoguent entre elles?
Non, c'est chaque fois comme un interview, en fait, chaque fois.
Voilà, ça a eu un grand succès auprès du public féminin. Il faut savoir que c'est le fils d'un acteur célèbre et donc il est parti dans la mise en scène. Il a réécrit Les Fourberies de Scapin en 2003. Et après, il a écrit ce livre. Donc j'imagine que c'est théâtralisé, les personnages, les scénettes, je ne sais pas, non?
Je ne sais pas si c'est théâtralisé, mais je trouve que c'est en tout cas très vrai, très sincère. Donc c'est pour ça que je n'arrive pas à savoir si c'est quelque chose qu'il a imaginé ou si c'est vraiment des témoignages, parce que c'est très fort.
Il est directeur artistique du Théâtre National de Cogent à l'heure actuelle. Il a perdu la vue, je ne sais pas, en 2012, suite à un accident, ses capacités visuelles. Et là, il a été soigné à Moscou. Il récupère une petite partie de sa vue grâce à un traitement au laser. Et donc, il continue de travailler en tant que metteur en scène d'un Théâtre National.
D'accord.
Et et donc ça a trouvé un large public, ces 8 monologues au Tadjikistan, notamment auprès du public féminin, ce qui est dommage, ça serait bien que les hommes aussi puissent en emparer, parce que sinon les choses ne changeront pas vraiment, mais voilà. Merci, je crois qu'on a présenté tous les livres.
mais non, il me semble qu'il y avait un deuxième livre.
Qu'est-ce qui manque?
Kyrgyzstan, j'ai noté. On retourne au Kyrgyzstan avec Hamid Ismailov.
Si tu veux le faire devenir kyrgyz, tu peux, mais il est bel et bien ouzbek.
Enfin, il est né quand même en 1954 au Kyrgyzstan.
Ah non, en Ouzbékistan.
Près de Tashkent.
Tashkent, c'est la capitale, en fait.
Oui. Ouais, il était de l'autre côté.
Alors, à 10 km à droite, effectivement, il y a la frontière. Mais
c'est vrai que c'est un écrivain ouzbek, mais d'un côté, qui a été expulsé d'Ouzbékistan en 1994.
Et pourquoi donc a-t-il été expulsé, Ludovic?
À cause de ses inacceptables tendances démocratiques.
Nous avons donc les mêmes sources.
On va les taire.
Ah, bon, bravo.
Non, en fait, la prochaine fois que tu prépares une bio sur l'auteur, je m'épargne de le faire. Hein.
Et c'est pour ça que je vous demande les livres que vous allez présenter, d'accord. C'est pour vous épargner ce travail-là.
Oh, prends soin de vous. Alors, penses-tu qu'il a été expulsé suite à l'écriture de son livre Conte du chemin de fer, qui initialement portait le titre Purgatoire ou pas ?
Je ne sais pas. Moi, je sais par contre qu'il s'est installé en France, en Allemagne, avec sa fille et ses deux enfants et sa femme.
Mais est-ce que là, ça nous apporte quelque chose d'intéressant pour notre émission ? Non, puisque nous sommes là pour parler littérature.
C'est vrai.
Ce qu'il aurait été important de dire, Ludovic, c'est par Hamid Ismailov. Était en fait une émule de Tchoulpan.
Yes.
Voilà, ça aurait été fabuleux que je puisse intervenir juste après Claire.
Ah, mais je l'avais
c'était
pas
sans
vu,
transition.
Ça.
Mais
oh
oui, mais t'avais
là
pas
là
lu.
Là, je
voilà.
l'avais pas vu.
Parce que toi, tu fais la bio et nous, on fait la littérature. Donc, effectivement, donc Hamid Ismailov, voilà, est vraiment le nouveau Bulgakov, le nouveau Gogol, je vais y arriver,
parce que c'est
hyper compliqué.
C'est un moteur de recherche.
Oui, mais justement, parce que j'étais sur Google pour essayer de faire la bio de cet auteur.
Mais
je
vous ai vu travailler toutes les trois, c'est pour ça que quand je fais cette émission, je commence par faire parler Marlène et après...
Voilà, bon, d'abord, attends, j'étais au niveau 348 de Candy Crush, s'il te plaît, je ne pouvais pas arrêter. Voilà. Donc, alors, moi, mon auteur, Hamid Ismailov, comme on le disait, donc, a écrit les Contes du chemin de fer, livre Contes du chemin de fer, qui n'est absolument pas un recueil de contes, mais qui est plutôt un roman, qui donc, comme je le disais tout à l'heure, s'appelait initialement Purgatoire. Notre auteur, donc, qui est ouzbek, a commencé à écrire son livre en ouzbek, et quand il l'a montré à un grand écrivain ouzbek, Saïd Ahmad, lui, il lui a préconisé, en fait, de l'écrire en russe, sinon il ne serait jamais édité. Donc, il a finalement écrit son livre, donc, Purgatoire, Conte du chemin de fer, en russe. Et il a bien fait, puisqu'aujourd'hui, il est traduit dans plusieurs langues. Par contre, ben, son livre, comme prévu, n'a pas été traduit par... n'a pas été accepté en Ouzbékistan sous le motif suivant... Attendez, je recherche... Enfin, que c'était trop acide, trop audacieux et contraire, donc, à tout ce que le régime soviétique pouvait attendre d'un livre. Voilà, donc ce petit livre, en fait, se raconte... Alors, on commence par un prologue assez étonnant, qu'on oublie vite... un peu long, un peu hyper religieux, hyper presque dogmatique. Et on ne sait pas pourquoi il y a ce petit prologue qui parle d'un grand-père, qui parle à son petit-fils ou à un enfant, on ne sait pas trop. Et très vite, donc, on se rend compte que tout le roman, toutes ces petites histoires vont tourner autour d'un chemin de fer dans une ville donc, qui est au sud de la capitale ouzbek, donc, qui s'appelle Gilas, je ne sais pas comment ça se prononce, je n'étais pas là le jour de la phonétique ouzbek en classe. Et c'est toutes les histoires de vie qu'il y a autour de cette ville. Donc, c'est une ville de passage où les gens s'arrêtent une heure, deux heures, un jour, une semaine, s'ils loupent le train, parfois plus, où se mêlent toutes les religions. On a des juifs, des musulmans, des chrétiens, on a des allemands, on a des ouzbeks, des russes. Et ça crée mais alors, tout un tas d'histoires, mais farfelues, à la limite parfois du grotesque. Enfin, c'est assez incroyable comme livre, parce que je m'attendais, par rapport au prologue, où c'était très, très posé, très religieux, très, très politiquement correct, j'allais dire, on part sur des explications, oui, parfois un peu exubérantes, un peu faux-folles. Et j'avais pas du tout lu la quatrième de couverture, j'avais pas du tout lu ce à quoi j'allais m'attendre, et je faisais que rire. Mais je faisais que rire, et je me suis dit, mince, je suis en train de me moquer, finalement, des us et coutumes d'un peuple. Et ça me donnait envie d'aller en Ouzbékistan, dans cette ville. On imaginait d'aller me poser donc, à la Tchaïkena, c'est le nom des tavernes. Donc un big up à tous nos amis taverniers qui sont fermés en ce moment.
Peut-être pas en Ouzbékistan.
Hein ?
Ils sont peut-être pas fermés
en
Ouzbékistan.
Et ça donnait envie. On avait l'impression en fait, que le temps dans cette ville était arrêté. Et que ce chemin de fer devait leur apporter de la modernité, devait leur apporter la nouveauté, et que finalement, ils arrivaient à s'en sortir malgré tout, qu'ils arrivaient un peu à voler ce que le chemin de fer pouvait amener. Et c'est ce qu'ils faisaient parfois, de voler un peu de blé, voler un peu de coton ou autre, ou s'en servir pour faire des... Par exemple, il y avait une voyante qui venait régulièrement par le chemin de fer, qui restait quelques jours, et quand le train repassait, elle repartait. Elle arnaquait les gens dans le village, et c'était fabuleux. Et c'était... Et plein de petites histoires comme ça. Et en fait, on avait l'impression qu'il y avait... souvent, ils parlent de la guerre aussi, ils parlent du communisme, de... Mais ça,
comme si ça passait, mais ça ne s'arrêtait pas. Ça les touchait pas. Et tous les personnages, en fait, ils ont des noms pas possibles. Ils ont toujours un nom avec un sobriquet qui va derrière. Si j'ouvre au hasard, par exemple, il y avait Oumar Ali, l'usurier. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Allez, j'ouvre au hasard, je suis sûre que je vais trouver un autre nom.
Il y a beaucoup de dérision.
Borgne, enfin voilà, tous les gens ont un adjectif qui les qualifie, et que des gens avaient des caractères Fiocla la chuchoteuse, voilà, et c'est très drôle en fait. Moi j'ai fait que rire pendant ouais. tout le livre, alors je culpabilisais en même temps, savoir si ouais. on avait le droit ou pas, ouais. et apparemment on n'a pas le droit quand on est en Ouzbékistan. Mais du moment qu'on fait comme l'auteur, qu'on le quitte volontairement ou pas, qu'on se fait virer, ben quand on est en France ou en Angleterre, comme là où il est aujourd'hui, puisqu'il travaille maintenant à la BBC, il est correspondant quand même à la BBC sur l'Asie centrale, c'est pas rien, ben là on a le droit de rire. Donc je ris avec Hamid Ismailov grâce à cette traduction du russe et édité chez Sabine Vespeiser.
Ok, ouais. super, ça voilà. donne envie.
Ah, mais ouais. c'est, on dirait qu'il y a été, hein, franchement. Je crois que tu as voyagé en Ouzbékistan.
Mais c'était génial en fait ce chemin de fer, parce que même si on était statique, en fait, il y avait quand même cette sensation de voyage apporté par tous les personnages. Qu'on voit, et puis c'est génial parce qu'on suit l'évolution de la guerre, enfin de tout ce qui avait un peu de pas terrible à cette époque, mais comme c'est vu depuis ce village un peu protégé, puisqu'il n'y a rien, en fait, on se rend compte que c'est un village quand même un peu isolé. C'est très beau, c'est très. Ouais, ça donne envie. C'est un peu un petit bastion protégé, alors pourtant c'est à quelques kilomètres au sud donc de Tashkent, donc. Où il y a quand même 2 millions et quelques d'habitants. Voilà. Mais je le conseille parce que c'est. Faut pas se laisser arrêter à se dire, mais c'est des contes du chemin de fer, ça va être très. Voilà, des morales, tout ça. Non, pas du tout. C'est plus des petites tranches de vie. Ouais. Le seul point négatif, parfois, c'est les personnages qui reviennent. Et des fois, ils utilisent que leurs prénoms, des fois, les prénoms avec les adjectifs qui les qualifient. Et des fois, bon, on s'en mêle un peu pas, entre ouais. qui est qui. Mais c'est vraiment le seul point négatif.
Subtil, Valérie. Alors, on a aussi une revue littéraire d'Asie à présenter, mais avant ça, c'est l'heure du...
Bingo !
Du jeu ! Et ouais, exactement. Il faudrait que je fasse un jingle.
L'heure du jeu. Tu vas devoir payer des droits.
Non, je viens de l'inventer.
Ouais. Je pense qu'il y avait quand même...
Non.
Alors aujourd'hui, moi, je vous présente un petit jeu qui s'appelle Lama. Je me suis dit que peut-être dans ces pays-là, ben, il y avait peut-être des lamas et que du coup, voilà, c'était le lien. J'ai un peu réfléchi quand même.
Si j'avais lu une revue littéraire sur des animaux, peut-être que je pourrais te dire s'il y avait des lamas, mais je ne sais pas.
Ah, bravo.
J'ai oublié de la lire.
Qui a la revue littéraire sur les animaux ?
L'histoire est même. Alors du coup, c'est un petit jeu qui est proposé par Gigamic pour 8 ans et plus. On peut jouer de 2 à 6 personnes. C'est un jeu de cartes, un petit peu de hasard. Et puis, donc l'auteur, c'est... Alors, excusez-moi, mais... Rainer Knizia. Et l'illustrateur est Kay Sommerkamp.
Il est ouzbek ou...
Mais je ne sais pas. Mais bon, enfin, voilà. Donc, excusez-moi pour l'accent. C'est, voilà. Du coup, c'est un petit jeu qui se présente, donc, comme je disais, avec des cartes qui vont de 1 jusqu'à 6. Et la 7e carte, c'est un lama. Le lama, c'est celui qui fait revenir à la carte 1 quand on joue.
Après avoir craché sur son adversaire de droite, Ludovic Terol.
Du coup, pas ta droite.
Ça ressemble un petit peu au Uno, qui est un grand classique, hein, le Uno. Ça se joue très très vite. Il y a une dynamique de jeu qui est très intéressante. Les règles sont très très faciles et abordables, voilà, ça s'explique très très vite. On doit enchaîner les cartes, donc celui qui pose un 1, le suivant doit aussi poser un 1 ou un 2, mais pas plus, et on doit suivre la chaîne comme ça. Et celui qui pose de la main, on repart à 0, enfin à 1. Et puis le but du jeu, c'est de se délester le plus vite possible de toutes ces cartes. En sachant que si on ne peut pas poser de cartes, soit on dit je m'arrête, je ne prends pas trop de risques, soit je pioche une autre carte en sachant que peut-être ça ne va pas du tout être dans l'ordre et que voilà, ça me rajoute des cartes. Le but du jeu, donc, c'est de ne plus avoir du tout de cartes. Surtout pas de lama parce que celui-là, il pénalise, il donne 10 points négatifs au total final. Et donc voilà, c'est un jeu de rapidité. Le but, c'est et de ne plus avoir de cartes et d'avoir le moins de points négatifs possible. On a des petits jetons blancs et noirs, donc celui qui gagne la partie peut se délester d'un de ses jetons. Blanc, c'est un point, noir, c'est 10 points, donc évidemment, il vaut mieux être stratégique et enlever un 10 points, si jamais. Voilà, écoutez, c'est un jeu franchement que je conseille.
Quand tu enlèves ton jeton, tu fais un cul sec.
Ça, c'est pas ça,
il fallait trouver une
version adulte. C'était
la vie d'avant, ça se met bien sur le zinc.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait.
Merci beaucoup, voilà. Lama.
Okay, Lama.
Et moi, je connais ce jeu, c'est un jeu, c'est super pour jouer entre générations, les enfants, les plus âgés, les plus anciens, j'allais dire.
Les vieux, quoi.
Ouais, parce que les règles, c'est très, très simple et c'est sympa pour instituer un petit moment de jeu très rapidement.
Voilà, très rapidement et même, j'allais dire, on l'a dans son sac et hop, on le sort, ça peut être une mise en ambiance terrible.
Oui.
Voilà, donc je vous le conseille.
Ouais. Super, merci beaucoup. Allez, on finit cette émission rapide avec Gentayou. Tu peux nous rappeler, nous expliquer ce que c'est, Claire? Ou pas du tout?
Rapidement, en fait, j'en sais moins que vous.
C'est une revue littéraire.
Je
pas préparé.
Mais oui, en fait, je l'ai
Non, je
ne
l'ai pas lu.
C'est génial.
Parce que, en fait, ça va me donner l'occasion de vous dire que trouver des romans de la littérature d'Asie centrale, ça c'était quand même pas une mince affaire, ça m'a demandé beaucoup de temps et surtout pour trouver de la littérature traduite en français, parce que c'est une littérature qui a quand même très peu voyagé, qui est surtout traduite en russe, et voilà, donc de la trouver en plus en français, c'était vraiment ça m'a demandé du travail. Et puis alors voilà, un peu par hasard, j'ai découvert cette revue que j'ai trouvé super, donc Gentayou, je sais pas trop comment on le prononce, donc sous-titre revue littéraire d'Asie. C'est super. Quand on ouvre donc dans les pages, les premières pages, on a une carte donc de l'Asie centrale avec des petites photos d'auteurs sur les pays en question qui vous indiquent donc dans ce numéro d'où viennent,
celui
viennent les
pas lu,
que vous allez lire. Voilà. Et donc ça sort, je crois, c'est deux par an et à chaque fois il y a un thème. Donc, il y en a six, il me semble.
Donc, Marlène, tu as lu L'Exil. Moi, j'avais Les Animaux que je n'ai pas lu. Valérie, tu as.
Moi, j'avais Histoire et Mémoire, mais j'avais vraiment d'Asie centrale. J'avais qu'un seul texte sur
l'Ouzbékistan. C'est différent, toi.
Oui. Après, j'étais en Chine, en Russie, Japon. Ouais. Enfin,
voilà. Et Pauline, elle avait.
La cuisine.
Ouais, la cuisine.
Wok et marmite.
Voilà. C'était génial, la cuisine.
C'était super. Voilà. Et je me dis, ça pourrait servir de base aussi pour une future. Future émission, je ne sais pas, on pourrait faire sur l'Asie du Sud-Est ou j'en sais rien. Enfin,
oui, de piocher dans tous ces auteurs, parce que souvent, c'est quand même des pontes, parce qu'à la fin, ils présentent tous les contributeurs à la revue. C'est quand même des gens, là, souvent, c'est des petites nouvelles de chaque auteur, mais ils sont... c'est des gens qui sont quand même...
Oui, qui sont connus dans leur milieu. Ouais. Ouais. Et alors, matériellement, je trouve que c'est des très belles productions. Mm-hmm. Il y a des...
C'est toujours illustré. Donc, il y a un illustrateur qui contribue à chaque revue. Et du coup, il y a une variété. C'est super. Hein.
Il y a des photos en forme de petits reportages. C'est très beau.
Des dessins, pas de pub.
Oui, aucune pub. Voilà. C'est vrai que j'avais pas réalisé, mais pas de publicité.
Et pour une revue...
Juste pour s'abonner à la revue, au mieux.
Oui.
Ce qu'on peut comprendre.
Ouais. Moi, j'ai des belles photos, des poésies dedans.
Et puis, il y a des textes. Moi, j'ai eu un texte sur le durian, qui est un fruit. Moi, je ne connaissais pas ce.
Qui pue.
Qui pue. écrit par un guide de voyage. Donc, en plus, la variété des auteurs, c'est large, parce que là, c'est un auteur de guide. Donc, on ne sait pas quelque chose qu'on lit si. Comme ça, le soir au lit, quoi. Oui. C'est très drôle, ce texte sur le durian. Il commence par parler du fait que tout le monde connaît quelqu'un qui s'est fait assommer par un durian. Il parle des hôtels qui se font évacuer quand il y a des livraisons de durian dans la boutique d'en face, parce que ça empoisonne la climatisation et que ça pue partout dans l'hôtel. C'est très drôle. Moi, je me suis... J'étais pas bien partie pour cette revue, parce que je me disais... Qu'est-ce que je vais lire? Des extraits, ça va être compliqué. Et en fait, c'est une vraie revue, c'est-à-dire qu'on peut le feuilleter, prendre un texte au hasard, et puis on va tomber sur une poésie. Donc voilà, un texte de guide de voyage, une nouvelle. Et c'est hyper varié. Il y a un thème, mais les textes, du coup, venant d'auteurs très différents et prenant des formes différentes, c'est super riche.
Et enfin, moi, le mien, mon titre était excellent. Hein.
T'as eu un thème plus intéressant, plus rigolo que le mien, parce que moi, l'exil, c'était chaud quand même.
Ouais. Très fun, ouais.
D'ailleurs, c'est Smilov aussi qui a écrit le tien.
Oui. Ouais. Mais moi, oui. C'était vraiment des textes sur la séparation, l'éloignement, l'immigration. Mais alors, du coup, ça m'a fait penser à ce que tu as dit, Claire-Lise, parce que derrière, il y a toujours un rebondissement, c'est-à-dire que du négatif, on tire vraiment du positif, et que de la souffrance, des doutes et tout ça, il y a toujours une touche d'espoir, une touche de...
Oui, voilà. Ça sert la littérature, heureusement.
Ouais. Et du coup, c'est vrai que sur l'exil, ça ressort beaucoup. Alors, tout à l'heure, c'est ce que je te disais, Ludo. Il y a quand même le passage qui, en plus, est encore actuel, là, qui m'a un peu retourné l'estomac sur le calvaire des Rohingyas, malheureusement, est toujours d'actualité. Donc, c'est vrai que c'est... Enfin, voilà. Moi, c'était plutôt une revue...
Oui, un peu moins fun que la mienne, voilà. Ouais.
Je tords l'estomac et puis... Et puis, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà. Mais bon...
Ok, super. Valérie, un mot sur... Non.
Moi, j'ai, de nouveau, c'était assez rigolo parce que c'était le seul paragraphe, le seul petit texte qui était sur notre thème, donc c'était en Ouzbékistan. Et c'était assez chouette parce que c'est un jeune écrivain, en fait, qui est né donc à Tachkent, dans la capitale, qui s'appelle Yevgeny Abdoulayev. Et il décrit cette capitale qui ne fait pas rêver, a priori, hein, qui est... Si je n'étais pas née et n'avais pas vécu dans cette ville, c'est précisément en ces termes que j'aurais commencé cet essai sur Tachkent. Et quand il commence, effectivement, il décrit un bus dans lequel ça sent le déodorant chinois bon marché sur le pare-brise, un petit porte-bonheur avec un mot qui chasse le mauvais œil. Il décrit quelque chose d'assez pas rococo parce que c'est pas gentil pour
ça
rococo,
me donne envie,
mais non, mais justement ça, il valait mieux aller à Gulias, mais tu sais que tu vas pour aller dans la ville là, qu'on aille boire un verre dans la Tchaïkena, tu es obligé d'arriver par Tachkent, et donc on va prendre ce fameux bus dans lequel on sent tu as des sièges en sky, il y avait la climatisation qui marche pas, le plastique qui recouvre dessus, enfin on se brûle les fesses,
les gens
c'est ça, voilà, et ce bruit, et il raconte tout ça,
la
un
poussière.
Peu la rivière qui traverse l'espèce de Rubicon de Tachkent, enfin, et c'est malgré tout, enfin je sais pas, il y a cette espèce de choses, je trouve très positive sur ces gens qui souffrent, j'allais dire, d'une politique peut-être dans ces pays, mais malgré tout d'un attachement à je sais pas si c'est à la terre parce qu'on c'est très sable, enfin très poussiéreux, j'allais dire, mais il y a comme un attachement, je trouve, à cette atmosphère qui donne envie de découvrir les gens, ces gens qui ont l'air très, très différents. Et finalement, malgré tous les dogmes, toutes les oppressions qu'il y a, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être plus ouverts, entre guillemets, que nous, parce que justement, ils ont ces différences, cette mixité culturelle très forte, en fait, sur tant religieuse que des migrations de tous les pays autour, parce que c'est quand même tout tordu comme pays, en l'occurrence l'Ouzbékistan. Oui.
Et ça, c'est vrai qu'ils sont vraiment à cheval. Enfin, ils ont toute l'influence de la culture russe et en même temps, ce sont des musulmans. Donc
c'est ça.
Ça fait un drôle de mélange.
Avec avec cette culture aussi asiatique sur l'accueil. Enfin, moi, ça me faisait beaucoup penser à ça, un accueil très, 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 très poli, très. Voilà, et ça donne envie. Enfin, moi, ça m'a donné envie de prendre un air ouzbek là.
Tu iras et tu nous diras ce que c'est parce que moi, le sky, la poussière, et le déodorant chinois, c'est pas trop mon truc.
Là, c'était la capitale. Si tu décris, c'est pareil, si tu vas au Japon, entre aller sur Okinawa, sur une île, méditer et arriver en pleine dans la capitale, t'as pas la même ressenti.
Et le turban, c'est ton truc, Ludo ?
Ah, quand il y a du soleil, pourquoi pas, écoute. Ok, merci beaucoup pour cette émission d'Asie centrale. Bon, on prend quoi ? L'avion, le train, le bateau ? On va où la prochaine fois ? Tu peux nous faire des cachotteries, Claire ?
Eh bien, j'avais pensé de façon très démocratique vous proposer de la littérature sur le Caucase.
Ah, super.
Donc, parfait. Voilà, Arménie, Azerbaïdjan et un ouvrage géorgien.
Bon,
mais
peut
tu vas avoir
bus,
du boulot.
On y va en train, non ?
En train ou en bus ?
Moi, j'y vais en train.
À cheval.
En âne.
Allez, merci. À la prochaine.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Et
la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un ou quand il n'y en a pas un.